Le J-Pop Social Club.
Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club, épisode numéro 6. Ah, et oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de podcast, je vous l'avais dit la dernière fois, bah voilà, je suis parti en vacances entre temps, c'était bien, mais je ne vais pas vous raconter mes vacances, c'est pas le but de ce podcast. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le J-Pop Social Club si, en introduction, si vous n'êtes pas abonné encore au compte officiel donc sur Facebook et ou sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. Pourquoi je vous le dis? Parce que là, très récemment, Alex Kurita, qui intervient régulièrement également dans ce podcast, désormais va poster chaque semaine un petit peu une sélection des nouveautés, des nouveaux clips qui sortent voilà, niveau Japon. Donc si vous voulez vraiment être au cœur de l'actu, n'hésitez pas et suivez ses posts parce que il fait ça beaucoup mieux que moi et il est surtout beaucoup plus au taquet. Donc comme il s'est proposé de le faire, eh ben, je lui ai donné les clés de la boutique et donc il fait son truc chaque week-end. Donc voilà, si vous voulez entendre les toutes dernières nouveautés, n'hésitez pas à suivre les comptes. Autour de cette table avec moi aujourd'hui, deux nouvelles têtes et une revenante. Dit comme ça, c'est carrément pas très sympa. Alors, Tanja, bonjour, bienvenue.
Comment tu veux que je dise après ça, moi?
Bah ouais, voilà. On rappelle qu'on peut te suivre sur ton blog lasteve.fr et également sur Journal du Japon.
Voilà, c'est ça.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, oui, oui, toujours.
Ok, parfait. Également à mes côtés aujourd'hui, Cyronimo.
Bonjour.
Voilà.
Moi, je suis pas revenante, je suis la nouvelle. Si tu as bien compris.
C'est ça, parce que les autres. Oui. donc, tu as présenté plusieurs années le J-Top sur No Life.
Sur No Life, voilà, tout à fait.
Et aujourd'hui, tu t'occupes de Gamingway.
Gamingway, oui, c'est un site internet gamingway.fr qui parle de jeux vidéo en général. Donc, il y a beaucoup à faire. Et on est plusieurs dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter.
Très bien. Et également, Xavier Norine est avec nous aujourd'hui.
Bonjour, je suis très content d'être là.
Alors attends, tu satures, bouge pas.
Ah,
bah, j'espère que c'est sincère, parce que sinon...
Ah bah oui, moi je suis toujours très content de parler de J-Music.
Voilà. Donc Xavier qui dirige aujourd'hui 33 degrés.
C'est ça, voilà. Donc une société dans le spectacle vivant. Donc on fait du booking, on fait de l'organisation de concerts, et on est label également, donc distribution de disques physiques et distribution digitale. Voilà.
Très bien, on va revenir dans tout ça avec un peu plus de détails tout à l'heure. Le programme est ultra chargé, alors on attaque sans plus tarder avec les news.
Les news.
On attaque ces news avec la séparation officielle de Jeanne d'Arc. Tanja, c'est toi qui vas un petit peu potasser ce côté-là. Alors, c'est un peu surprenant parce que Jeanne d'Arc, ça faisait depuis 12 ans qu'ils étaient officiellement en pause. Et on se disait que bah ça s'arrêterait là et que voilà. Mais non, là, il y a eu donc plein d'actualités à ce niveau-là. Et donc, ont conduit jusqu'à l'annonce officielle de la séparation du groupe.
Assez surprenant parce que bon effectivement ça fait 12 ans qu'ils sont en pause. Puis d'un seul coup on a eu un petit message comme ça qui a popé. Ah, on se sépare. Bah oui, ok. Pourquoi pas hein, c'est... Et donc c'est a priori c'est le bassiste, donc Caillou, qui a décidé de quitter le groupe et le reste du groupe a décidé de ne pas continuer sans lui. Bon, pourquoi pas. Bon, on savait déjà que de toute façon Yasu, le chanteur, il est très malade, donc lui, même son groupe acide Black Cherry. On connaît quand même pas mal, il a arrêté aussi, enfin il est en pause. On ne sait pas s'il pourra revenir, donc voilà. On peut comprendre qu'effectivement, ils aient envie de passer à autre chose et de passer à...
Mais alors donc, effectivement, pour essayer de comprendre pourquoi subitement, 12 ans plus tard, communiquer, voilà. Donc effectivement, il semble qu'il y a eu quand même pas mal de... Enfin voilà, c'est un petit peu la cuisine interne, mais il semble qu'en gros... Caillou, donc le bassiste, a quitté la boîte de management qui s'occupait de Jeanne d'Arc, qui s'appelle Uprise Product. Et donc c'est ça qui a un petit peu lancé un petit peu le truc et qui s'est un peu parti dans tous les sens suite à ça. Voilà, il y a eu donc fermeture du fan club, enfin pas mal de choses, et puis surtout donc un peu une guerre de communiqués avec d'un côté Yasu qui a fait son communiqué, de l'autre les autres membres. Enfin bref, c'était pas très clair, mais clairement ça semble quand même assez mal barré. On reverra a priori jamais le groupe. Hein, là, voilà, si toutefois on avait encore.
Faut jamais dire jamais. Hein. Il y en a qu'on a vu revenir, mais bon, là effectivement, je pense qu'ils ont eu le temps de peser le pour et le contre, et que là on est peut-être arrivé effectivement à une fin définitive, mais
ouais. Donc effectivement, et puis effectivement des ennuis judiciaires aussi en cours sur lesquels on a assez peu d'éléments. Voilà, on sait qu'il se passe des choses, et et on peut comprendre aussi qu'il n'y a pas vraiment de com public et officiel là-dessus, parce que ça a l'air d'être un sacré merdier, on va dire ce qu'il est. Donc voilà, en tout cas voilà, donc Jeanne d'Arc, c'est fini,
c'est un point final.
Voilà. Et puis effectivement, donc Yasu pour Acid Black Sherry, effectivement.
Ouais, il est en pause aussi, lui, de toute façon, depuis un moment.
Voilà.
Problèmes médicaux, donc.
C'est ça. Donc voilà. Et, donc chaque membre va vaquer à ses occupations. De mon côté, je voulais vous parler de Calafina. Alors Calafina aussi, j'ai essayé de refaire un petit historique parce que c'est un peu confus. Hein, voilà. En mars 2018, on apprend que la compositrice et la personne qui est à l'origine du groupe, qui est Yuki Kajiura, a quitté le label. Donc c'était un label de Sony de mémoire, suite a priori à des désaccords, et c'est là où un peu tout part un peu en couille, hein, on va être honnête. Il y a donc une rumeur de séparation du groupe. Finalement, le lendemain, on nous annonce que le groupe va continuer mais en duo, qu'il y a l'un des membres du trio qui s'en va. Voilà, c'est pas très clair. Et puis finalement, comme on le craignait, parce que quand même, Calafina, c'était quand même, ça tenait beaucoup aux compositions de Kajiura, donc sans elle, compliqué quand même de faire quelque chose dans le style, hein, parce qu'il y avait quand même une patte assez particulière. Et donc, pas de nouveau single, rien ne se passe. Il y a finalement il y a Keiko et Hikaru donc qui quittent leur agence, et il reste que Wakana qui se lance dans une carrière solo, qui fait une tournée. Et donc là, en mars 2019, on a l'annonce officielle de la séparation de Calafina. C'était un petit peu doutable. Hein. Après un an, je pense qu'ils ont un peu cherché des gens qui étaient susceptibles de reprendre le truc, mais c'était vraiment trop compliqué. Enfin voilà, on sent bien que c'est eu un gros bazar. Et pourtant, là, il y a quelques jours, il y a des rumeurs d'une reformation avec le retour de Kajiura et donc des trois membres. Donc là, c'est à ne plus rien y comprendre. Enfin, il semblerait que les équipes au sein du label ont changé et que donc les divergences de point de vue originelles, du coup, vu que ce ne sont plus les mêmes personnes, ça ouvre la porte à une potentielle reformation. Pour le moment, rien de confirmé. On ne sait pas si ça va se faire. Voilà. Mais en tout cas, moi, je serais plutôt content si ça pouvait revenir, parce que j'aime beaucoup Calafina. Et surtout, de mon point de vue, c'est un des rares groupes qui peut à la fois intéresser aussi bien le public d'otak, de geek, et peut-être ouvrir un peu la porte, parce que ils ont quand même un style et puis des capacités vocales assez intéressantes qui peuvent peut-être intéresser les gens au-delà de cette sphère un petit peu japanophile. Donc du coup, pour l'occasion, on s'écoute un petit extrait de Kimi no Gin no Niwa. Siro, on passe à toi avec l'actu de SMAP. Alors, pour de vrai, pas tout à fait en fait, parce que officiellement SMAP n'existe plus, mais quand même, ils continuent à faire des trucs.
C'est ça, on parle que de groupes séparés, c'est très très Yankee Yankee aujourd'hui. Du coup, SMAP, voilà, ils sont séparés depuis le 31 décembre 2016, mais ils ont quand même une actualité. Parce que voilà, SMAP, c'est une institution au Japon, hein, on le sait, et Dragon Quest, qui est un jeu vidéo, une
c'est saga aussi
de
une
vidéo,
institution.
Est aussi une institution au Japon, et les deux sont liés, ça, je savais pas trop, moi. Mais du coup, ils ont toujours fait des partenariats depuis Dragon Quest VI, si je ne m'abuse. Et pour la sortie, par exemple, de Dragon Quest X, SMAP avait fait une pub sous forme de gag où ils faisaient une conférence de presse où ils annonçaient qu'ils allaient se séparer, et c'était en 2012, pour avoir plus de temps pour jouer au jeu.
D'accord.
Mais du coup, c'était très annonciateur.
Il y a peut-être des messages alors dans les pubs.
Exactement. Alors maintenant, tout le monde reprend ça en mode « Oh, mais non, ils sont vraiment séparés. » C'était pas un gag, c'était vrai et tout. Et donc là, le 27 mai, au Japon, tous les ans, c'est le Dragon Quest No Hi, le jour de Dragon Quest. Et donc, ils font des gros événements, parce qu'en fait, c'était la sortie du premier Dragon Quest à l'époque. C'est pour ça que c'est resté le 27 mai, maintenant, c'est un jour spécial. Et donc là, il y a un gros événement où trois membres des SMAP, donc Tsuyoshi Kusanagi, Goro Inagari et Shingo Katori, ont fait une chanson qui s'appelle Hoshi no Fanfare, qui est une chanson qui sera disponible en dématérialisé et qui est liée au jeu smartphone Hoshi no Dragon Quest, donc Dragon Quest of the Stars, Fanfare des étoiles aussi, tout ça, c'est, voilà, c'est lié. Et le compositeur de la chanson, c'est Nakajin de Sekai no Owari. Donc voilà, donc c'est
un le combo ultime quand même, hein. SMAP,
voilà, quand même.
C'est intéressant.
C'est parce qu'il y a eu 20 millions de téléchargements sur le jeu, donc voilà, pour le 27 mai, gros événement, il y aura même une vraie convention dans la ville de Chiba pour ce truc-là. Ils seront sur scène, ils vont chanter la fameuse chanson que tout le monde attend.
D'accord. Donc on écoute le petit extrait de la chanson qui dure 15 secondes, qu'on entend dans la pub, du coup,
voilà.
c'est le seul extrait qu'on peut diffuser. Je poursuis en vous parlant de Utada Hikaru. Oh bah quelle surprise. Quelle surprise.
Je l'attendais pas.
Non mais pour de vrai, il y a une vraie actu, puisque elle a fait sa tournée japonaise à la fin de l'année 2018, qui a été évidemment filmée. On en avait déjà parlé parce qu'il y avait eu des choses disponibles sur PS4 en VR, voilà, vous pouviez revivre des extraits du concert, enfin après tout ça. Et le 26 juin va sortir donc le Blu-ray de ce concert, donc sorti physique au Japon évidemment, qui sera également dispo sur iTunes. Et surtout, peut-être à ma connaissance, c'est la première fois, le concert va être également disponible sur Netflix pour le monde entier. Donc est-ce qu'autour de cette table vous êtes abonné à Netflix?
Oui.
Non.
Ah. Ne faisons pas de pub, mais.
C'est la première fois que je crois qu'un concert de J-Music sera disponible sur Netflix. Comme d'habitude, on ne sait pas combien de temps ça sera le cas, hein, mais en tous les cas, on espère quand même quelques mois. Du coup, je pense que ça peut être aussi intéressant parce que ça va amener forcément un nouveau public qui est déjà abonné à Netflix pour d'autres contenus, peut-être à s'y intéresser, à lancer ça. Puis bon, y a toujours aussi autour de l'artiste, hein, ses collaborations avec Kingdom Hearts ont beaucoup aidé forcément à la faire connaître à l'international, donc ça peut aussi... amener ce public-là à retomber, à mater le concert. Donc voilà, écoutez, si vous êtes abonné, à partir du 26 juin, vous allez pouvoir visionner ce concert. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on écoute un extrait de ce concert. Dans le reste de l'actu, je voulais voir un peu votre avis sur la collaboration que l'on a découvert en France entre Jam Project et Orelsan pour l'opening de la saison 2 de One Punch Man. Donc c'est une chanson de Jam Project sur laquelle Orelsan pose un rap exclusivement pour la France. Alors j'ai vu passer quand même quelques messages de internationaux où les gens étaient un peu jaloux en fait qu'on ait une version rien qu'à nous. Alors à votre avis, est-ce que ça peut être une bonne chose d'avoir des artistes francophones? Alors on rappelle qu'Orelsan est la voix de Saitama en VF, hein, donc tout ça est logique, hein, ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe d'un seul coup. Est-ce que à votre avis ça peut être une forme de... Ça peut amener un public, voilà, par exemple le public d'Orelsan, à s'intéresser aussi à l'animation et à la musique japonaise. Non. Merci.
Eh bien.
Vous l'entendez, le vent qui souffle.
Non mais en fait, le truc, moi je pense par rapport à Orelsan, c'est que de toute façon dans le dans le rap français, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont fans de manga. Donc, en fait, au final, ça va pas forcément ramener beaucoup plus de monde. Mais par contre, le fait qu'il y ait une collaboration, c'est toujours une bonne chose. Après, Orelsan étant fan du Japon, moi, je sais qu'il a cherché à faire aussi d'autres collaborations. Donc je pense que ça s'est fait parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est la voix de Saitama, donc forcément ça a été beaucoup plus facile. Mais Orelsan est en train de chercher en fait d'autres collaborations aussi avec d'autres artistes japonais.
C'est une exclue que tu nous donnes. Faut que je fasse un jingle spécial.
Oui, c'est une exclue. Après, voilà, je sais plus quand est-ce qu'il est, il avait fait un showcase
au Japon l'année dernière.
L'année dernière, au Japon. Et effectivement, on avait rencontré le management français et il nous avait dit voilà, qu'il voulait rencontrer le plus d'artistes possibles pour voir quel type de collaboration il pourrait faire. Donc nous, on leur avait envoyé un listing de beaucoup d'artistes. Voilà, mais après, les collaborations artistiques, ça prend du temps. Hein, parce que là, en fait, c'est pas vraiment une collaboration, c'est plus un featuring dans une chanson.
Oui, c'est vrai.
C'est pas une collaboration, ouais. Ça, pour moi. Donc c'est quand même très, très différent.
Non, parce que je pense pas qu'ils se soient rencontrés avec Jam Project.
Peut-être, mais pas à cette occasion, spécifiquement.
Ouais,
en tout
pas
cas.
Spécifiquement pour l'enregistrement, en tout cas.
En tout cas, voilà. Est-ce que le public d'Orelsan peut s'intéresser à Jam Project grâce à ça?
Moi, je pense qu'il doit y avoir des Jam Project qui, en plus, voilà, comme ils ont fait quand même beaucoup de musique d'anime. Enfin, je pense qu'il y a déjà des gens qui doivent les connaître. Hein.
Siro, un avis?
Ouais, je pense que c'est vrai que ça peut quand même faire que les gens s'intéressent un peu plus. Qu'ils fassent, tiens, c'est qui ce groupe derrière? Allons voir. Ah, ils ont fait d'autres chansons. Peut-être deux ou trois qui connaissent pas, on sait jamais.
Et peut-être que du coup, du point de vue japonais, c'est le contraire. Du coup, ça va être, mais qui est ce français qui vient poser un rap sur... je sais, ça, donc voilà. Bon, en tout cas...
Mais
voilà.
du coup, le titre est sorti aussi au Japon?
Ça, je ne sais pas, en fait.
Le titre, il est sorti, mais avec la version japonaise. Quoi.
Oui, c'est ça. Mais je sais pas si...
Non, nous, on l'a eu en exclu.
Je crois que c'est vraiment limité au territoire français, donc du coup, c'est ça aussi qui...
Ah oui, donc les Japon, ils vont même pas voir, en fait.
Ça se trouve, ils vont pas voir ça diffusé.
C'est qu'ils l'ont annoncé, ils l'avaient annoncé au Japon, mais
L'info a quand même bien été diffusée.
Oui, l'info a été diffusée, mais après...
Si un jour Jam Project repasse en France, peut-être.
Ils l'inviteront sur scène. Et
voilà, guetter l'arrivée surprise d'Orelsan, peut-être. je ne sais pas. En clin d'œil, je voulais aussi évoquer la disparition de J-Pop Trash. Alors, voilà, ça parle aux vieux. Hein,
c'est très fort d'Internet.
Restez correct, monsieur.
Alors, peut-être que peut-être que ça fait longtemps que ça n'est plus accessible. Mais effectivement, c'est dernièrement, j'ai vu passer un message, J-Pop Trash a disparu. Voilà, effectivement, le site est plus accessible. Alors, on rappelle brièvement ce qu'était J-Pop Trash. C'était quand même un site bourré de mauvaise foi.
je veux dire, bon résumé.
Voilà, qui du coup, a pris au 30 000e degré, était très drôle et s'attaquait un petit peu à toutes les grandes figures de la J-Pop des années 2000, on va dire. Donc, c'était... C'était féroce, mais ça c'était quand même drôle. Et voilà. Moi, je me rappelle, à l'époque, je prenais ça pas forcément si bien que ça, parce que j'étais très peut-être plus premier degré. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais eu du mal à un peu à encaisser, je reconnais. Mais voilà. Donc,
c'est toujours pareil, dès que ça parle d'un groupe qu'on aime bien, on est là, mais pas du tout, là c'est faux, alors que les autres, eux, c'est vrai,
bien sûr. Évidemment,
c'est toujours comme ça.
Mais en tout cas, voilà, à voir peut-être sur archive.org, peut-être il existe encore des reliquats de ce qu'était J-Pop Trash. Voilà. Et on termine avec rapidement une sortie. Siro, c'est toi qui nous en parle d'un méga.
Voilà, super méga maxi best-of de Arashi qui fête leurs 20 ans de carrière. Alors, petite piqûre de rappel, le 27 janvier dernier, pendant une conférence de presse, ils ont annoncé leur séparation. Tout le Japon était en pleurs, moi aussi. Enfin,
grand drame.
Ça fait quand même la une sur Twitter.
C'est vraiment une séparation ou ils ont juste
c'est fini.
Ils vont Ah oui, c'est pas
ça. On va faire une pause
et puis
c'est vraiment terminé.
Oh non, arrête. Bon,
okay. Je pense qu'ils veulent peut-être fonder leur famille, arrêter.
Oui, voilà, avoir une vraie vie.
Stopper un petit peu tout ça. Donc leur séparation sera effective le 31 décembre 2020. Et en attendant, ils sont en train de faire une grosse tournée, puisque c'est quand même leurs 20 ans de carrière. Il y a 50 dates différentes dans tout le Japon. Et leur CD, enfin si je dis c'est un CD, mais ça sera 4 CD, 64 chansons quand même. Bon, 20 ans de carrière, il y a quand même quelques hits. Il sortira le 26 juin 2019. Et donc il y aura leur tout premier single qui est Arashi, qu'ils ont sorti en 99 à Hawaï pour leur lancement. Et le dernier en date, Kimi no Uta, qui est sorti en octobre 2018. Et il y aura aussi, dans la version collector qui coûte 6600 yens, il y aura un DVD avec 26 clips live de leur tournée qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc c'est vraiment un truc que j'aimerais bien avoir, par exemple. Voilà, c'est vraiment un objet qui a l'air très sympathique, surtout qu'après, bah, du coup, il n'y en aura plus. Et voilà, et on ne peut pas écouter d'extrait parce que c'est les Johnny's, et les Johnny's, on n'a pas le droit. Voilà. C'est très fermé comme truc. Voilà. Si vous voulez, je peux chanter à la Chine. La première chanson que tout le monde connaît. Mais bon. You are my soul, soul, itsu mosugu soba ni aru, yuzure nai o dare mo jama dekinai, karadachu ni kaze o matsumete maki o kose arashi. Arashi for dream.
Merci.
Ouais. Bravo. Bravo. On tourne les lois du Japon. Si c'est
mais là, on a rien contourné. Du coup, voilà, effectivement, on disait qu'on allait faire un karaoké et qu'on allait l'enregistrer.
Ouais, voilà, bah voilà. Ouais, on a des micros, voilà. On chante.
Très bien. Merci pour toutes ces belles news. Et on enchaîne sans plus tarder avec les premiers focus.
Focus.
On attaque les focus de cet épisode 6 avec toi Tanja et un groupe que tu affectionnes tout particulièrement, Man with a Mission.
Ah bon?
Yeah. Ouais, c'est pas la seule.
Ah bah oui.
Il y a des fans, il y a des fans.
Bah, j'espère bien, tiens. mon premier focus, ça sera sur Man with a Mission. Hein, parce que je crois qu'on a un peu compris que j'étais fan. Alors je vais pas vous parler de Fly Again 2019 qui vient de sortir, parce que c'est pas très intéressant. Hein.
C'est quoi, c'est une nouvelle version?
C'est une nouvelle version, mais en plus elle change pas énormément.
Elle change pas beaucoup.
Non, elle change vraiment pas beaucoup. C'est surtout l'occasion pour eux de faire un nouveau clip, de faire ressortir un clip un peu plus moderne de Fly Again, avec des images de leur dernier concert au stade Okoshien d'Osaka. Donc là, c'est super cool. Hein.
C'est accessible sur YouTube, donc.
C'est accessible sur YouTube, voilà. Donc, c'était pour dire qu'ils avaient un énorme succès, surtout au Japon. Non, moi, je vais revenir sur Left Alive, qui est le single qu'ils ont sorti juste avant, qui est composé par Jenken Johnny, comme d'hab, qui est plein d'énergie, qui est trop bien et tout. Et on l'a eu d'ailleurs en concert en mars dernier à la Loco. Enfin, la loco, non, la machine,
chez moi, c'est rouge, enfin.
Ça n'existe plus depuis longtemps.
Oui, je sais, mais non. Ah là là, mon Dieu. Oui, non, la machine, qui était un concert qui était complet, c'était super génial, je ne sais pas si vous y étiez. Oui.
Non, Monaco, je ne pouvais pas.
Oh là là.
C'est trop bien.
C'était complet, ils étaient très heureux, nous aussi. Et voilà, donc Man with a Mission, ça continue, ils seront encore là en Europe en juin.
En Angleterre.
En Angleterre, au Download Festival et dans une petite salle aussi à Londres, début juin. Donc ils continuent leur petit bonhomme de chemin alors qu'ils sont super connus au Japon. Et donc on a une super chance, c'est qu'ils veulent continuer à venir en Europe nous voir alors qu'ils font des petites salles de 900 places. Donc c'est super gentil. Hein. Et donc si vous voulez, regardez leur dernier clip, écoutez-le, venez les voir la prochaine fois qu'ils reviendront en France parce que je suis sûre qu'ils vont revenir.
Okay. Donc on écoute un extrait de Left Alive.
Yes.
Et effectivement, moi quand j'étais au Japon, je suis passé devant, un peu par hasard, devant le pop-up store café de Man with a Mission, donc, dans lequel il y avait des goodies, des petits trucs, un concert qui était diffusé, et donc toute la partie bouffe et à boire. Et j'imagine que du coup le groupe avait dû composer des cocktails, des sandwichs ou je ne sais pas quoi. C'était, j'ai pas regardé un peu en détail, mais j'imagine que ça devait être quelque chose de cet ordre. Siro, on passe à toi avec un groupe que toi aussi tu as vu au Japon.
Oui, donc je vais parler de Mook, qui est un des groupes que j'affectionne aussi beaucoup, comme Tanja avec Man with a Mission. Oui. Et je pense que c'est un des groupes que j'ai vu le plus de fois en concert d'ailleurs, ce que je me disais récemment, autant en France qu'au Japon. Et on commence tout de suite par l'extrait si ça vous va, c'est Psycho de Mook. Du coup, voilà, c'était Psycho de Muc, qui est de leur dernier album Coaletta Piano to Living Dead, un album qui est sorti en février dernier, et pour lequel il y a un cinquième membre qui s'appelle Toru Yoshida, qui est pianiste forcément, parce que comme c'est un album avec du piano, il fallait quand même qu'il y ait un pianiste, sinon ça n'a pas de sens. Et puis il a composé quand même quelques morceaux, et donc effectivement j'ai pu voir leur concert le 1er avril au Zepp Tokyo, voilà, je vais dire une bêtise, Zepp Tokyo, et c'était vachement bien, ça a duré presque 3 heures quand même de show, ouais, c'était sérieux. Donc avec du piano, pas que, avec plein de morceaux de leur nouvel album, des anciens morceaux aussi. J'ai l'impression que le public est assez jeune et assez nouveau aussi. Vraiment beaucoup de monde. Et eux, c'est l'inverse par contre de Man with the Mission, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup de succès au Japon et je pense que pour l'instant, ils ne vont pas revenir tout de suite en Europe, donc c'est un peu dommage.
C'est dommage, ouais.
On les attend, mais il va falloir attendre encore un petit peu. Parce que là, du coup, pendant ce concert-là, ils ont annoncé une énorme tournée avec plein de dates dans tout le pays.
Ah oui, parce qu'ils fêtent leur...
Et là, voilà, justement, c'est leur tournée anniversaire cette année. Mais ça, c'est encore un truc à part. Hein. C'est pas vraiment... Mais quand eux, ils disent tournée anniversaire, c'est pas leur nana de carrière, c'est leur anniversaire à eux. Et oui. Parce qu'ils sont nés tous en 79. Et donc, c'est leur 40 ans cette année.
D'accord.
Tous les membres, les quatre membres.
Les quatre, ouais.
Et du coup, ils ont fait chacun un jour, leur jour de leur anniversaire, il y a un concert spécial. Qui sont sold out, évidemment,
enfin, pour leur 40 ans.
Pour le fan club, ouais. C'est un gros bordel. Donc, du coup, le premier, c'est le Mia Day, qui est le 26 juillet. Et en plus, il invite ses potes sur scène. Donc, il y a, chaque fois, ils font ça, ils invitent d'autres groupes. Donc là, il y a Rotten Graffiti, Metronome, Lynch et X Suginami, qui est le side group de Mia, où en fait, il est avec ses copains, qui viennent un peu de plein d'autres groupes, parce qu'il y a le chanteur, c'est un mec de No God, le guitariste, c'est un mec de Mary, il y a le batteur de Jupiter, et ils font des covers de X Japan, en fait.
C'est
trop bien, et du coup voilà, ils ont des crêtes, ouais, quand tu vois les photos, moi je fais ah, un groupe des années 90, ah non, pas du tout, c'est maintenant en fait, c'est eux qui se tapent un gros délire, et du coup c'est vachement bien, c'est un copy band, mais et donc tous ces gens vont venir sur scène, voilà, le 26 juillet, et ils font tous ça à intervalles. Donc après il y a le Satoshi Day le 12 août, où lui il invite Desert, Nocturnal Bloodlust, Satoshi qui est l'enchanteur de Gilgamesh, ex-Gilgamesh, encore un groupe séparé, on parle que de groupes séparés, c'est tellement triste. Ensuite, il y a le Tatsuro Day, le 21 août, mais là, on n'a pas encore les invités. C'est encore dans longtemps, donc il ne l'a pas dit. Et ensuite, le UK Day, le 5 novembre, grand final à Shibuya, et on ne sait pas non plus qui sera là, mais voilà, ça fait envie. Et ils viennent d'annoncer aussi leur venue au Rock in Japan Festival 2019 en août, où il y aura tout le monde, en fait. Tous les groupes de rock... Ouais.
Le Rock in Japan, voilà, c'est voilà. Un peu...
Non, mais là, cette année, c'est
mais l'affiche est énorme. Extraordinaire, donc t'es...
Donc voilà pour Muc.
Très bien, merci beaucoup, Siro. Xavier, on passe à toi et tu vas nous parler d'un groupe que tu apprécies beaucoup, c'est Gatchar X Spin.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu du mal à choisir et bon, j'ai pas préparé aussi. Donc pourquoi je voulais parler de Gatchar X Spin, déjà, c'est parce que c'est un groupe que j'ai vu en live plusieurs fois, dans des petites salles et sur un festival. Et c'est vraiment un groupe qui sur scène déborde d'énergie. En fait, c'est un mélange entre metal, power metal, J-rock. Alors peut-être que pour des Français qui ne connaissent pas, ils pourraient presque dire que c'est un groupe d'idol. Il y a des gens qui disent que Bandmate c'est un groupe d'idol hein, quand même. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je me permets.
Ouais, parce que dans nos petites jupettes et que c'est des filles et voilà direct.
Non mais après. Et après c'est vraiment voilà au-delà de ça, après on peut les classer dans ce qu'on veut, mais c'est vraiment un groupe en plus où elle compose, parce qu'il y a aussi beaucoup de groupes de ce genre-là où c'est pas, enfin c'est d'autres compositeurs en fait, les groupes sont juste interprètes, et donc en fait elle compose vraiment. Et puis voilà, et je voulais aussi parler de ce groupe-là parce que du coup je les connais aussi un peu personnellement, et qu'en fait humainement c'est aussi des gens très bien, très proches. Du coup moi j'ai eu la chance de faire la fête avec elle à Séoul plusieurs fois d'ailleurs, et ça fait longtemps, en plus c'était en 2012 hein, ou 2011, donc ça commence à faire un petit moment, et je trouve ça un peu dommage qu'elle soit pas plus connue, donc je vous invite en fait à aller les découvrir, et du coup on écoute un extrait de Juicy Beats, qui est une chanson que j'aime bien parce qu'elle est très dansante en fait. Voilà, il y a même une chorégraphie d'ailleurs, on peut faire la chorégraphie avec le clip. Voilà, on l'écoute. Alors du coup, par rapport à Get Your Spin et à leur musique, donc il faut savoir que elles ont été, bon déjà c'est un groupe major, mais elles ont été majors dans deux majors différentes. Du coup, ce qui a un peu changé aussi les directions parfois. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu l'arrivée de deux danseuses. En fait,
ah oui, je
me
rappelle. Oui, je me rappelle.
Du coup, pour, enfin, j'avoue que je sais pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi. Les danseuses étaient là, mais bon, après ça amène voilà toujours quelque chose en plus de très sympa sur scène, c'est sûr, parce que après bah, musicalement
oui
ça change pas, mais pourtant elles sont aussi très présentes dans les clips et donc au fil de leurs albums, c'est vrai qu'il y a des chansons très très différentes. Donc c'est la batteuse en fait Anna qui chante et la claviériste qui en fait ont des chants très différents en fait toutes les deux. Anna elle est plus, enfin elle peut aller vers le métal en fait justement dans son chant, ce qui est hyper intéressant. Et la claviériste elle voilà plus une voix J-pop et beaucoup plus beaucoup plus mélodique en fait et beaucoup plus douce. Et du coup bah les membres fondatrices, c'est la guitariste et la bassiste. Donc la guitariste Tomozo et la bassiste Koga. Donc elle faisait partie. Alors oui, j'ai oublié de dire qu'elle faisait toute partie de groupes différents en fait avant. Et Tomozo et la claviériste faisaient partie du même groupe. Voilà, mais je pense qu'en fait elles se sont vraiment bien trouvées sur Get Your Spin. Et d'ailleurs en fait. Musicalement, c'est tellement intéressant que pour le coup, en fait, elles participent toutes à d'autres projets annexes qui sont intéressants. Donc il y a un autre projet qui s'appelle Dolls Box, qui était hyper intéressant parce que en fait, il y a eu un album, je crois qu'il y a eu deux albums. Et le premier album, en fait, il y avait un clip par titre. Oui. Et c'était chez King Records d'ailleurs, il me semble. Et enfin voilà, c'était vraiment hyper bien. Et du coup, elles ont même fait un projet en fait dans le cinéma, parce qu'elles ont joué en fait dans un film de zombies.
D'accord.
Et ça, ouais, alors ça c'est énorme aussi. Alors je me souviens plus du titre, c'est dommage. J'espère qu'on pourra, on pourra le mettre sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Mais ça c'est pareil, voilà. Et du coup, elles évoluent comme ça tout ensemble et c'est vraiment intéressant. Et du coup là elles ont même fait une compilation du coup avec leur ancien titre où elles ont remasterisé, remixé certains titres, dont un titre que j'aime bien et qu'on va écouter qui s'appelle Lock On. Du coup la version 2013. Terminer en fait sur Get Your Spin, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas préparé.
C'est vachement bien pour quelqu'un qui a pas préparé.
Ça va, tu maîtrises quand même, ça va.
Non mais c'est parce que c'est vraiment un groupe que j'adore. Moi j'espère juste qu'on va pouvoir les revoir en fait en Europe.
C'est vrai qu'elles sont venues en France et moi c'est un groupe que j'aime beaucoup aussi. J'aimerais bien que ça marche mieux, effectivement.
Mais elles étaient venues quand d'ailleurs? C'était en 2014, en 2012, non?
En 2012 il me semble.
À Japan Expo.
Il y a eu Japan Expo, ouais. Il y a eu une autre fois, dans le sud plutôt.
Ah
aussi,
oui.
Une autre convention. Mmh.
Mais c'est vrai que moi j'aimerais vraiment qu'elle revienne. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore eu des changements là dans le groupe récemment. Je crois que il y a une des danseuses qui est partie, qui a été remplacée. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous invite vraiment à soutenir ce groupe, parce qu'il faut vraiment les soutenir. Parce que voilà, musicalement elles sont géniales et humainement elles sont étonnantes et parfaites quoi. Voilà.
Très bien, bah, ça vient du cœur en tout cas, on le sent que tu apprécies ce groupe.
Ouais. Ok, oui, effectivement, moi je sais plus en quelle année, mais je me rappelle les avoir vus à Japan Expo, je me demande si c'est pas 2000, ah, je sais même pas, ouais, 2013, 2014.
2014 peut-être, ouais, ça me semble une bonne date moi.
Ok. Voilà, allez. Tu as rabolifié Wikipédia, selon tes souvenirs. Très bien, on passe à la rubrique invité.
L'invité.
Xavier, je rebondis sur cette magnifique intervention et on va un petit peu parler avec toi de ce que c'est que de travailler avec le Japon et de ce que c'est que d'organiser des concerts en France de musique japonaise.
Tout à fait.
Alors déjà, on va essayer de revenir rapidement sur ton parcours. Alors je pense qu'on s'est connu à l'époque de J Music Distribution,
Tout à fait. Ouais,
ensuite, tu as dirigé Bishi Bishi, qui était le label musical de Ankama.
Tout à fait, c'est ça.
C'est ça. Et donc là, tu t'occupes donc de 33 degrés.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Est-ce que j'ai oublié, il y a des trous là-dedans, j'ai oublié des trucs peut-être ?
Non, c'est presque parfait. Ah. Juste une précision sur J Music Distribution. Donc J Music Distribution était composé en fait de trois entités. Il y avait J Music Distribution qui s'occupait donc de l'importation de CD et de distribution d'artistes japonais bien sûr, et il y avait J Music Store aussi qui était un site de VPC de produits toujours de goodies et de CD d'artistes japonais, et J Music Store en fait était aussi utilisé pour les conventions, du coup on avait les stands J Music Store, voilà. Et la troisième et dernière activité, c'était J Music Live, donc une activité de concert, avec énormément de concerts organisés d'artistes japonais. Et d'ailleurs, on essayait très souvent de faire jouer aussi des artistes français, toujours, en première partie, parce que voilà, on trouvait que c'était aussi important de soutenir la scène locale, hein, parce que c'est, voilà, et justement de créer des échanges. Donc voilà, et effectivement après, du coup il y a eu Bishi Bishi, donc chez Ankama, qui a duré quelques années quand même. Et voilà, et donc aujourd'hui sur 33 degrés. Donc 33 degrés, voilà, qui est une structure d'organisation de concerts, on fait du booking d'artistes, et du coup une activité de label aussi, donc distribution physique et digitale. Voilà.
En tout cas, tu es un petit peu de toute cette période, parce que J Music Distribution, ça s'est arrêté à quoi, en 2010, je crois, à peu près.
Ça s'est arrêté en 2009.
Voilà. Et du coup, entre-temps, il y avait effectivement beaucoup de gens qui évoluaient dans ce milieu-là à cette époque-là. Aujourd'hui, tu es un peu le dernier, en fait, de
cette dernier escapé.
Mais non, mais c'est vrai, enfin, quelque part, il n'y a plus, tous les gens.
Je pense pas que je sois le dernier. Ce qu'il y a, c'est que, il y a Torpedo Production, donc Bertrand, qui avait commencé d'ailleurs avec nous chez J Music Distribution, et du coup qui continue encore en fait, donc à faire des artistes japonais. Après sinon il y a Ramen Events, enfin qui s'appelle plus Ramen Events, c'est iFeel, pardon. Donc Aurélie qui pareil avait commencé en 2007, donc elle est encore là. Donc en fait au final je suis pas le dernier.
Ok. Alors l'un des derniers, ok.
L'un des derniers, non mais après. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'artistes japonais sur J Music Distribution, sur Bishi Bishi, et sur 33 degrés un peu moins, parce que du coup il y a aussi des artistes coréens, parce que par extension en fait, du coup on est venu nous démarcher.
C'est aussi une question de tendance, enfin.
Une question de tendance, mais c'est aussi le fait que forcément quand vous êtes un des seuls à faire des artistes asiatiques, et du coup on vient nous contacter en fait, naturellement en fait, voilà. Okay. Donc voilà.
Alors on va donc revenir au tout début, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu-là au départ ?
Alors, ce qui m'a donné, envie de travailler dans l'industrie de la musique, c'était parce que le premier stage que j'avais fait dans la musique, c'était dans un label qui s'appelle Roadrunner, et qui est un label de métal très connu, enfin pour ceux qui connaissent bien sûr. Et du coup, j'ai découvert là le métier le métier de promotion d'artiste. Et de promotion de CD en fait, surtout, parce qu'on faisait surtout de la promotion de CD. Et on faisait des opérations marketing dans les points de vente. Et j'organisais aussi, puisque c'était le boulot du stagiaire, d'organiser des soirées qui s'appelaient Onde de Choc, qui étaient des soirées pour promouvoir les artistes. Donc Roadrunner, si vous ne connaissez pas, voilà, il y a Slipknot, Machine Head. Il y a plein de groupes. Donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler dans l'industrie de la musique. Et après, en fait, le fait de travailler avec les artistes japonais, c'est venu plus du fait que, déjà, j'étais fan de manga. Et pour le coup, un de mes amis, un jour, m'a passé un CD de X-Japan. Et du coup je me suis dit les Japonais ils savent faire de la musique aussi, il n'y a pas que les Américains en fait. Et du coup petit à petit j'ai découvert de plus en plus cette scène. Après j'avais monté mon asso, après on faisait de la musique aussi avec Tanja d'ailleurs,
oui.
On faisait des reprises de groupes du Visual Kei. Et en fait à un moment donné je me suis dit, il faudra que je monte un projet dans ce que j'aime, donc qui était la musique et le Japon.
Voilà.
Et voilà. Et
très bien. Alors, je vais te poser une question qui ne va pas être évidente.
Oula.
Quel est le meilleur concert de musique japonaise sur lequel tu as pu travailler?
Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des concerts très difficiles et des concerts très très drôles. Et du coup, j'ai parlé de ceux qui étaient très très drôles, parce que c'est ça les meilleurs concerts en fait au final. Et c'était avec Maximum Zeromone. Maximum Zeromone, pourquoi? Parce que pour moi c'était un groupe très très connu. Enfin, ça l'est encore, mais à l'époque encore plus au Japon. Et nous, pour avoir travaillé avec des groupes, avec d'autres artistes, on sait que parfois, les artistes en dehors du concert, faut pas les déranger, faut pas leur parler. C'est très difficile de communiquer avec eux maintenant. Et eux, en fait, sont vraiment des gens qui ont un relationnel, une curiosité aussi, qui est géniale. Et en fait, déjà, ils sont très bavards. Surtout Daisuke, en fait. Alors lui, c'est vraiment très très drôle. Parce que des fois, il essayait de parler en français. En fait, c'est très très drôle. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus si elle existe, mais je crois qu'il y avait une interview aussi qu'on avait fait pour No Life, je crois, au Hard Rock Café. Et c'est pareil, qui était hyper drôle. Je sais pas si on peut la retrouver encore cette
truc de No Life, ouais, c'est compliqué, ouais,
c'est dommage. Mais du coup, ça c'est vraiment un des meilleurs concerts que j'ai pu faire aussi, parce que du coup à l'époque c'était à la loco, donc maintenant la machine, et c'était surblindé. Et en fait il y avait une énergie.
Il devait faire chaud de fou. Super chaud. C'était horrible.
C'était horrible, mais c'était génial.
Oui. Ah oui, mais c'était génial. C'est un concert absolument génial.
Vraiment, c'est le concert que j'ai pu
celui avec, sur lequel tu as les meilleurs souvenirs. Donc.
Les meilleurs souvenirs. Alors, et pourtant, en fait, je les ai refaits après en Belgique. Tsubishibishi, d'ailleurs, c'était plus G-Music Live. Mais du coup, c'était moins bien, bizarrement.
D'accord.
Là, c'était vraiment ce concert-là à la loco qui était juste magique.
Très bien. Puisqu'on parle de la loco, on parle de. On l'a pris tous Radio Dit 15 ans. C'est très bien. Désolé, hein, voilà. Quel regard tu portes sur l'évolution de la musique en France, justement? Toi qui as un peu vécu ces différentes époques, moi j'avais la sensation qu'on avait senti une forme d'expansion sur la fin des années 2000, on va dire, une forme de bulle peut-être au début des années 2010, et puis bon, bah après ça s'est un petit peu cassé la gueule. Est-ce que tu as le même sentiment que moi ou pas du tout?
Alors, moi, mon avis, c'est que la G-Music en fait continue d'évoluer et pour moi de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une tendance qui a beaucoup aidé, selon moi, qui a beaucoup aidé le développement, c'est le Visual Kei en fait. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que peut-être que ça ne se serait pas développé
à ce point.
Autant. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base où c'était quand même très très niche, du coup le Visual Kei a percé un peu sur le grand public. Et en fait au final, moi je trouve pas que ça se soit cassé la gueule en fait, c'est juste que il y a toujours autant de groupes qui viennent au final, mais du coup il y a quand même beaucoup de groupes maintenant du coup qui ne sont plus niches en fait. Du coup, qui voilà, c'est soit des groupes de des groupes de metalcore, on voit tous les groupes Crossface, Cold Rain, machin. Il y a des groupes japonais comme Mono qui eux voilà, en fait ils tournent tout le temps en Europe. Et en fait, les fans de G-Music, je sais pas s'ils en parlent. Enfin, en tout cas,
on en parle dans l'agenda après.
Mais c'est pas le truc, c'est pas un sujet où les gens en parlent régulièrement. Ils font Mono et tout, c'est plus discret quoi.
C'est vrai, c'est exactement ça. Mais en fait, au final, pour moi la G-Music évolue parce que moi j'englobe tous les groupes vraiment et du coup c'est juste que effectivement la mode est passée du visu on s'est dit peut-être qu'il allait y avoir avec les idoles je pense que AKB a fait parler d'elle beaucoup. Mais en fait au final tu vois c'est les groupes de Hello Project qui se sont maintenus le plus.
Parce qu'ils ont travaillé à l'international tout simplement, là où AKB.
Ouais, sûrement grâce aux Français qui travaillaient là-bas.
Voilà, il se reconnaîtra, on le salue.
mais voilà, donc en fait pour moi, la G-Music évolue toujours. Et voilà, et on voit Man with the Mission, ils font des sold-out, il y a Shonen Knife qui vient, enfin il y a plein de groupes en fait.
Mais par exemple, toi tu parlais de Maximum The Hormone. On les a pas revus en France depuis ce concert, en fait, ils sont pas repassés, tu vois, alors que probablement ils ont un public, ils avaient fait sold out à l'époque, et ça pourrait très bien de nouveau continuer à marcher. Et pourtant, ils ont pas continué. On les a pas revus malheureusement, quoi.
Maximum The Hormone.
Ouais.
Maximum The Hormone, la dernière fois
qu'ils sont venus,
c'était quand? C'était au Hellfest, non?
Oui, c'était au Hellfest.
C'était Wellfest. Mais après, c'est vrai qu'il y a
après,
eu...
c'est compliqué parce qu'elle a eu deux enfants.
Ouais, voilà, c'est ça. Oui.
Il y a eu des problèmes aussi médicaux aussi pour chanter. Enfin, ça a été compliqué. Donc,
Ok, donc c'est indépendant du fait que...
C'est plus vis-à-vis du groupe là que...
Ouais.
Ok. Alors, on va parler maintenant de comment ça se passe pour faire venir des artistes japonais en France.
Alors, comment ça se passe?
Comment ça marche?
Alors, comment ça marche? Alors, tu prends un artiste...
Prends l'avion.
Tu le mets dans l'avion et il vient et il arrive. Non, alors déjà pour commencer, qui initie la démarche en fait? J'imagine qu'il y a un peu, c'est variable selon les groupes et selon les cas, mais qui est à l'origine de la démarche?
En fait, comme tu dis, c'est variable, c'est au cas par cas. Donc il y a soit les artistes ont une volonté de s'exporter et pour le coup ils viennent. Ils cherchent des partenaires locaux ou soit en fait c'est les promoteurs locaux qui en fait font des offres en fait aux artistes, c'est à dire que par exemple on va avoir par exemple pour Maximum The Hormone, on est allé les voir au Japon, hop, on a fait un petit rendez-vous, on vous propose, on aimerait vous faire venir, on vous propose trois dates, on vous propose ça et ça, oui non, et et s'ils disent oui ils viennent, et s'ils disent non ils viennent pas.
Ça peut être une négociation ou est-ce que c'est fixe, genre c'est oui non et il n'y a pas de est-ce que
Généralement avec les Japonais il n'y a pas de négociation. D'accord. Et donc en fait c'est oui ou non et mais par contre ce qui est assez intéressant avec les Japonais, parce que quand même il faut le souligner, c'est que du coup au tout début je veux dire, moi quand j'ai monté ma structure c'était en 2005-2006, c'est vrai qu'il y avait peu de Japonais en fait qui sortaient du Japon, et surtout qui allaient en Europe, surtout pour les groupes de J-pop ou de Visual Kei. Donc du coup, en fait, ils n'avaient jamais pensé à aller faire un concert ou aller faire une tournée à l'étranger, quoi. Pour eux, c'était juste
le Japon.
Voilà, ouais, c'était le Japon.
Et... Bah, c'est ce qu'on ressent.
Un peu l'Asie autour, mais pas trop.
Ouais,
quand
voilà, de temps en temps.
Pas trop, ouais. Loin, ouais.
Donc voilà. Donc en fait, au début, c'était surtout des promoteurs locaux, enfin, ou des entités européennes qui allaient faire des offres, parce qu'effectivement, c'était ça. Et mais effectivement, maintenant, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant...
Il y a une prise de conscience qu'il y a un public international, quand même.
Voilà, c'est ça. Et du coup...
Et par exemple, je rebondis sur ça. Moi, quand j'étais au Japon il y a quelques années, quand ils parlaient, par exemple, de scandale, ils montraient des images de scandale à Japan Expo en France en faisant « Regardez, ça marche trop en France !» Parce que ça, c'était moins connu au Japon qu'ici. Et il y a eu ce phénomène-là aussi, où des fois, certains groupes sont venus en France faire des concerts salle pleine, parce qu'évidemment, Japan Expo, on remplit ça,
de
personnes. Et après, ils font des belles images et ils font « Regardez, mais ce groupe est vachement bien et les Japonais s'y intéressent. »
Mais c'est vrai que l'Europe a toujours été un marché d'images, de toute façon, pour les Japonais. Donc le fait de dire « Ah, regardez, on réussit à l'étranger pour des groupes qui sont pas connus ou moins connus ou qui se lancent, bah, du coup, ça peut développer leur carrière au Japon. Et d'ailleurs, c'est vrai que je me souviens qu'on avait fait un groupe de Visual Kei complètement inconnu au Japon et qui sont devenus très populaires, enfin assez populaires ici. C'était Dio. Et ils étaient juste inexistants au Japon. Et ils sont arrivés en France. C'est d'ailleurs eux qui ont fait les premiers concerts, je pense, de Visual Kei en province, en fait, non ?
En province,
enfin,
oui.
dans des petites villes, genre Limoges.
Ouais, c'est possible. Ouais.
Parce qu'il n'y avait pas.
Ouais. On salue Josodio au passage. d'accord. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait Siro, je me rappelle le premier concert de l'Arc-en-Ciel, par exemple, il y avait cette fameuse tournée asiatique via Paris. Enfin, c'était. Il y avait vraiment le côté on fait que l'Asie et puis on fait une date parce que c'est vraiment Paris, c'est vraiment le symbole.
Bah, c'est ça. Voilà. Bah, c'est un très bon exemple. Hein, en fait, ils sont venus parce que ça faisait partie de leur concept. Mais je pense qu'ils n'ont jamais eu, et d'ailleurs c'est dommage, hein, mais ils n'ont jamais eu de réelle ambition de vouloir se développer en Europe.
Ouais, c'était vraiment,
au cas juste, par cas. Juste comme ça. Et après, peut-être qu'ils se sont dit, ah bah tiens, en fait, il y avait du monde, peut-être qu'on va revenir, bah, du coup ils sont revenus.
Ouais, et ça a été moins réussi. Quoi.
Mais, voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de premiers rendez-vous qu'on avait fait avec Sony Music ou avec Amuse. On parlait de l'arc-en-ciel en Europe. Pour Amuse, moi, je voulais faire venir Perfume.
Alors, on rappelle, donc Amuse, c'est vraiment l'agence qui gère les artistes et qui travaille en collaboration avec les labels musicaux, pour le coup.
C'est ça. Et du coup, je me souviens surtout pour Amuse, donc qui gère toujours Perfume. Moi, il m'avait dit, donc ça c'était en 2007, je crois, ou 2007. Et il nous avait dit, non, mais Perfume, elles sortiront jamais du Japon.
Comme quoi,
tiens, quoi.
Très clair.
Voilà. Et pourtant, après, voilà, elles sont venues. Donc, après, peut-être que l'idée doit venir d'un japonais aussi. Hein. C'est possible.
C'est peut-être aussi, ouais. Et puis il faut le temps qu'ils se mettent ça dans la tête, qu'il y a un public ailleurs, que c'est peut-être pas mal, ne serait-ce qu'en termes d'image, comme tu disais,
ouais,
de se déplacer un peu.
Ils avaient justement changé de maison de disques. Ils étaient passés de chez Universal, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça a aussi certainement.
Ah, Universal, ouais. C'est vrai qu'ils.
Ça a dû forcément pousser aussi de ce côté-là, quoi. Enfin,
ouais.
Très bien. Alors. Est-ce qu'il y a du coup des indicateurs particuliers qui sont utilisés aussi bien par les Japonais que par toi en tant qu'organisateur pour définir si ça vaut le coup de faire un concert ou pas ? Est-ce que, je sais pas, les ventes d'albums, le nombre de vues sur YouTube, je sais pas, ou pas du tout, c'est complètement décorrélé ?
Bah, en fait, les indicateurs, il y en a plusieurs. Avant, c'était est-ce que l'album est bien ? Donc ça c'était un premier indicateur.
Mais ça c'était toi en tant que professionnel qui le jugeait quoi du coup.
Oui mais nous moi par exemple pourquoi est-ce qu'à un moment donné je me suis dit ah tiens je vais développer ou je vais faire venir des groupes de Visual Kei ou de rock japonais en fait en Europe, c'est parce que moi je jugeais que les compos, les musiques étaient hyper bien et que c'était vraiment dommage que ça reste au Japon, quoi. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et d'ailleurs, j'organisais justement des... Enfin, avant J'ai Musique Distribution, en tant qu'association, j'organisais des soirées dans un bar au Piano Vache.
Piano Vache. Ah, oui, la fameuse soirée Piano Vache.
Donc en fait, c'était tous les mois. Et je diffusais des artistes japonais. Et bon, et du coup, il y avait des clients qui venaient et qui parfois disaient « Ah, c'est bien comme groupe. » Bon, ils ne savaient pas que c'était une soirée à thème. Et du coup, ils disaient « Ah, c'est super comme musique, c'est cool, c'est quoi comme groupe, machin ?» Donc voilà, et quand on parlait du groupe, je leur disais « Ah, c'est japonais », tout de suite, c'était « Ah !» L'étonnement, quoi. Ouais. Genre, vraiment, ils comprennent pas comment c'est possible.
Genre, ils font du rock au Japon,
ouais, c'est
voilà,
ça,
ils font de la musique.
Et donc voilà, donc les indicateurs, il y a déjà ça. En fait, il faut quand même que la scène, elle soit... Enfin, que les albums soient intéressants. Et puis après, c'est sûr que maintenant, grâce à Internet, on a des super indicateurs. Hein. Mais malheureusement, d'ailleurs, en fait, le problème, c'est que maintenant, ces indicateurs-là, en fait, sont trop importants, sont devenus très importants même pour des programmateurs. Et du coup, avant même d'écouter un album, en fait, on va aller regarder combien il a de vues sur YouTube, quoi. Et ça, c'est très dommage, parce que du coup, c'est pas bien. Donc, de regarder juste ce type d'indicateur. Mais bon, après, on peut pas leur en vouloir aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence maintenant. C'est-à-dire que il y a trop de concerts, selon moi. Il y a beaucoup trop d'offres, il y a trop de festivals, enfin voilà. Et donc effectivement, comment savoir quel groupe choisir, tu regardes celui qui a la plus grosse communauté, quoi. Donc c'est un peu ça.
D'accord.
Aujourd'hui.
Et alors, quelles sont les difficultés récurrentes que tu peux rencontrer en organisant un concert ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent peut-être.
Alors en organisant un concert de groupe japonais ?
Bah,
ou en organisant un concert tout
confondu. J'ai envie de te dire les deux à la fois, quoi.
En fait, la difficulté que l'on rencontrait, parce que maintenant on la rencontre beaucoup moins avec les Japonais, c'est que comme je disais tout à l'heure, comme les Japonais ne sortaient jamais du Japon, en fait, dès qu'ils venaient ici, ils pensaient que ça fonctionnait comme au Japon. Et du coup, on leur disait, non, ça se fait pas comme ça. Donc j'ai beaucoup d'anecdotes, mais moi je vais pas les raconter parce que sinon voilà.
Podcast de 4h30.
mais c'est vrai que en fait au niveau le choc culturel en fait peut être important, que ce soit pour les techniciens ou pour les artistes. Nous on a beaucoup de techniciens ingé son japonais qui venaient où ils nous disaient non mais lui c'est un super ingé son au Japon, et en fait quand il venait ici il faisait juste n'importe quoi. Par exemple, je me souviens une fois, il y en avait un, on lui dit non mais ici il y a une limitation sonore.
Il y en a
ah bon
au Japon.
Une limitation sonore, bah ouais. Mais comment c'est possible? Il est complètement paniqué le mec, hein, il savait pas quoi faire. Donc vraiment le choc culturel, il peut être hyper balèze, hein, hyper important, quoi.
D'accord. Et est-ce que par exemple aussi sur par exemple pour trouver la bonne salle, par exemple pour le bon artiste, ça peut être, j'imagine, enfin voilà, c'est essentiel dans la pour voilà de bien calibrer entre guillemets la taille de la salle à l'importance de l'artiste, et est-ce que tu vises, et est-ce que ça peut être difficile justement à trouver?
Alors oui, c'est difficile à trouver. Parce que en fait déjà il y a des salles qui se prêtent mieux à certains types de musique que d'autres, parce que pour des raisons soit acoustiques, soit aussi par rapport au fait qu'il y a des salles où il fait trop chaud ou des salles où il fait trop froid, enfin c'est très souvent qu'il fait trop chaud, et mais parce que ça peut être vraiment un problème même. Nous on a eu des artistes là sur des concerts de groupes d'idol où en fait ça pose un problème, le fait qu'il fasse trop chaud dans la salle. Et c'était pour Angerme en fait, où c'était au mois de juin, ouais, où il avait fait très très chaud, et en fait c'était à la Cigale, c'était hyper mal climatisé, et franchement il y a les petites elles
ouais,
ont failli
pas le choc,
ah ouais non mais c'était vraiment compliqué, hein. Et voilà. Et du coup, oui, ça peut être compliqué de trouver la bonne salle en termes de jauge, en termes techniques, en termes de prix aussi, parce que c'est ça aussi. Et après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on privilégie par rapport à la proximité avec le public, en fait, qu'on veut donner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit on se dit... En tout cas, moi, c'est ce que je propose à chaque fois, mais c'est vrai que c'est, d'ailleurs, ils choisissent jamais de faire plusieurs dates sur la même ville, les Japonais, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai proposé ça plusieurs fois, je leur ai dit, mais au lieu de prendre une grande salle, prenez des petites salles, où c'est beaucoup plus proche du public, c'est beaucoup plus sympa, surtout pour les groupes de rock. Et je leur ai dit, au lieu de faire un Bataclan, vous faites, je sais pas, trois petits bains, ouais. Et ça va être beaucoup plus sympa, quoi. Mais en fait, ils veulent jamais.
Ouais,
c'est triste, hein.
Ouais, c'est très dommage.
Non, mais en plus, attends, parce que, enfin, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, sur les concerts, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est des petites salles.
Bah oui. Bah, justement, je parlais de Mux tout à l'heure. Moi, je les ai vus à Bordeaux dans un bar. Je sais pas si vous imaginez. Alors que maintenant, ils font des salles énormes, et c'était magique.
C'est ce que j'ai dit avec Mademoiselle Michel, c'est-à-dire que là-bas, au Japon, tu vas les voir dans un stade.
Ouais.
Alors chez nous, bah, tu vas les voir
dans une salle,
ils sont quasiment sur nos genoux, quoi.
Mais là, ouais, c'est sur nos genoux.
Si.
Enfin, là, ouais, c'était un bar. On était genre, ils étaient juste là. Quoi, c'était le concert privé limite, enfin, on n'était pas 30, mais c'était très sympa. Ouais.
Non, mais c'est ça, de toute façon, pour moi, les concerts, ça se fait dans des petites salles. Hein. Les concerts dans des stades, c'est nul, ça. C'est pour les groupes de K-pop, ça.
Oh là là, c'est gros.
Oh là là, les tacles. Il est fier de lui.
Est-ce que les artistes japonais, enfin, évidemment, on ne peut pas faire une règle générale, mais est-ce qu'ils ont des exigences particulières une fois qu'un concert est décidé et qu'ils vont venir? Est-ce que tu peux être surpris par le passé dans tes diverses expériences d'avoir des exigences, des choses qui te demandaient, qui te semblaient d'un seul coup, ça te tombe dessus et tu ne l'avais pas vu venir, je sais pas.
Alors oui, au début, c'était les humidificateurs. En fait, ils veulent tous des humidificateurs tout le temps. Les Japonais. Donc parce que l'air n'est pas le même qu'au Japon. Donc,
d'accord.
Voilà. Donc soit de la clim, soit des ventilos et un humidificateur, toujours.
Mais maintenant tu le sais, donc c'est prévu, c'est ça?
Bah oui, maintenant à chaque fois. Mais c'est vrai qu'eux, t'en vois pas forcément. Bon, maintenant ils le font, mais avant. Parce que du coup, eux pensaient. Enfin, encore une fois, hein, c'est toujours le même problème. Ils pensent qu'au Japon. Enfin, que ici c'est comme au Japon, bah non.
Qu'on a des clims partout, voilà, des humidificateurs d'air, alors que pas du tout.
Et voilà, et du coup quand ils arrivent ici, ils font bon. Mais c'est comme ça vraiment. Et comment vous faites dans la vie de tous les jours? Bah...
Non mais bon, après c'est sûr que le climat est pas le même aussi, donc voilà. Alors tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais effectivement on peut s'interroger sur les avantages et les inconvénients d'un côté d'organiser effectivement une seule date dans une grande salle ou au contraire de mettre en place une tournée. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux formats en fait?
En fait quand on fait une date unique, en fait l'inconvénient c'est si on fait sold out. Et qu'en fait on n'a pas prévu de faire une deuxième date derrière ou de faire si on n'a pas de backup, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim, surtout les artistes. Parce qu'ils se disent c'est un peu dommage, en fait on va venir pour faire une date et elle est complète.
Ah d'accord, donc en fait ils préfèrent une salle bien remplie mais pas sold out que un sold out fulgurant qui pourrait par exemple arriver.
C'est pas qu'ils préfèrent, c'est juste que en fait parfois ils sont pas préparés à faire forcément sold out tout de suite. Après c'est vrai que c'est de plus en plus rare maintenant, malheureusement, oui. Mais c'est vrai que du coup quand il n'y a pas quand il n'y a qu'une seule date et qu'ils n'ont pas prévu de backup quoi, c'est un peu dommage de venir que pour une date.
Et c'est rare parce que c'est vrai qu'avec 12 heures d'avion, c'est déjà timing, c'est déjà important dans leur planning, c'est une journée de voyage qu'il faut intégrer. Donc c'est vrai que c'est rare qu'ils puissent se permettre de s'ouvrir une journée de plus de vacances entre guillemets s'il n'y a pas besoin. LOL. de visite, de promenade, de visite de la tour Eiffel, voilà, on va dire ça.
Ouais, c'est ça.
Mais
après pour les tournées, donc l'avantage et l'inconvénient. Bon déjà l'avantage c'est que en fait on couvre beaucoup plus de territoire, donc on va jouer sur des marchés différents. Parce que alors en fait j'emploie le terme marché hein, pour une raison très précise, c'est que les Japonais réfléchissent en termes de marché. Donc en fait pour eux ça reste quand même différent. Enfin même s'ils disent l'Europe, pour eux. voilà, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, en fait, restent des pays importants et qui différencient bien quand même. Ils savent que c'est des... D'accord. On ne parle pas la même langue. Donc quand même. Et donc voilà, donc c'est ça l'avantage, en fait, c'est de pouvoir toucher donc des publics différents. Et du coup, bah, ça permet bah, justement de réduire quand même certains coûts et d'optimiser. D'optimiser le déplacement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on vient à 20 et du coup on a fait 3 dates ou 4 ou 5 et du coup c'est quand même beaucoup plus intéressant que de faire qu'une seule date, quoi. Donc parce qu'en plus nous l'avantage c'est que sur l'Europe les distances sont très petites. On peut faire une date à Paris, à Londres, c'est hyper rapide, on peut aller après en Allemagne, aux Pays-Bas. En Belgique, tout
bus,
est à côté.
En bus. Les tournées bus. Ouais.
Et du coup, voilà, c'est tout est en tourbus, sauf en avion pour certains artistes diva. et donc voilà.
D'accord. Alors justement, d'un point de vue communication et marketing, quels sont les leviers que toi tu vas pouvoir ou que tu vas demander au management d'activer pour faire la promotion d'un concert ou d'une tournée?
Alors. Ça d'ailleurs par rapport à la promotion et au marketing ça a été c'est toujours une très grande difficulté. La difficulté est que les managements japonais sont très frileux à envoyer des contenus.
Malgré l'évolution. Ouais.
Donc c'est très compliqué de faire de la promo. Au final, parfois, on est presque obligé de se débrouiller tout seul. mais c'est vrai que c'est pas évident. Déjà, d'une part, parce que ça dépend aussi avec qui on est en contact. Parce qu'en fait, quand on est en contact avec une maison de disques, la maison de disques, généralement, elle est producteur d'un album. Et donc, en fait, généralement... Un album va avec une série de contenus graphiques, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir n'importe quelle photo. Il faut que ce soit des photos qui soient liées à l'album.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, c'est important. Par exemple, si on veut leur demander des photos de leur ancien album, mais que ce n'est pas la maison de disque qui l'a produit, c'est pas possible. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours être en contact avec le management directement, parce que en fait, eux ont accès à beaucoup plus de choses. Mais la difficulté, c'est que en fait, le management doit quand même demander aussi aux maisons de disques quand c'est lié à des albums. Non, mais c'est après, c'est un casse-tête.
Non, mais enfin, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on comprend mieux aussi pourquoi souvent il y a des choses.
Oui, parce que les gens ils sont là, mais alors avec Internet on a tout et tout, mais ça marche pas comme ça.
Oui, mais exactement. Et du coup, comme les Japonais c'est des control freaks des contenus, du coup c'est en termes de marketing et de promo c'est vraiment extrêmement compliqué. D'avoir quelque chose, de faire des interviews. Moi je me souviens au début, quand on avait la chance d'avoir des grands médias qui voulaient bien faire des interviews ou des choses, c'était les Japonais voulaient relire l'interview, quoi. ce qu'ils avaient écrit. Et on leur disait, non, ça se fait pas ici, ça sera publié comme ça.
Liberté de la presse.
Et ouais, c'est ça. Ouais, et parfois on n'en voyait même pas, en fait, on avait peur.
Ah oui.
On avait peur qu'en fait ils disent qu'après ils ne travaillent plus avec nous. Mais pour le coup, en termes de marketing et promo, c'est très compliqué avec les Japonais. Et en fait, au final, heureusement qu'il y a eu tous les sites, de passionnés, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, et d'ailleurs on le voit maintenant, je pense, que pour le coup, comme il n'y en a presque plus aujourd'hui. De sites de passionnés de musique japonaise. Déjà, il n'y a plus personne qui écrit vraiment, en plus, à part peut-être le Journal du Japon.
On est encore là.
Non, mais heureusement.
On est moins nombreux, ça c'est vrai.
Ouais, mais c'est ça, et c'est un peu triste, moi je trouve, parce que pour le coup, c'est vrai que le fait de vouloir développer des artistes aujourd'hui, c'est quand même de développer des artistes japonais, c'est compliqué, en fait, très compliqué.
Et le développement des réseaux sociaux, du coup, ça n'aide pas non plus spécialement, parce que c'est pareil, quoi, c'est difficile d'exister du coup dans un...
Alors, en fait, le développement des réseaux sociaux, ça a aidé tout le monde, sauf les Japonais. C'est ça qui est très drôle.
Bah, en même temps, ils étaient sur Google+, ou je sais plus quoi, enfin les trucs...
Ah oui.
Ils ont bien choisi, quoi.
Ouais. Non mais c'est ça. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Hein. C'est toujours des histoires de contrôle, en fait, d'image. Donc moi je me souviens là, c'était quand, c'était pour Hello Project, pour Angerm. Donc ce même français qui travaillait là-bas, qui en plus travaillait de l'interne hein, quand même, il était là. Très courageux, hein, ce jeune homme, et qui en fait qui a essayé de convaincre les groupes de Hello Project de faire par exemple des lives sur Facebook, ce genre de choses. Et pendant des années, ils l'ont pas fait. Et là, ils l'ont fait une fois pour Angerm en 2018 justement. Je sais pas d'ailleurs vraiment pourquoi ils ont décidé à un moment donné, ah tiens, on va le faire. Et du coup, ils se sont rendus compte, ah bah oui, mais en fait, c'est quand même bien efficace. Ah bah oui, mais on est en 2018, il fallait peut-être vous réveiller avant, là, parce que c'est un peu trop tard maintenant.
Mais c'est le Japon en général, parce que dans le jeu vidéo, c'est pareil avec Nintendo. Les derniers sur l'online et tout, c'est hallucinant. Que comme tous une politique, dans tous les domaines. Quoi.
C'est ça, c'est dans tous les domaines. Et parfois, tu te demandes comment ils ont... C'est une superpuissance comme ça. Moi, je me pose des questions tous les jours.
Alors qu'ils envoient des fax.
Ils sont encore en fax.
Alors, juste, parlons un petit peu argent. Est-ce qu'aujourd'hui... Organiser...
Alors, mon salaire.
Voilà, ta déclaration d'impôt. Quelle est la rentabilité aujourd'hui d'un concert de J-Music? Est-ce que seulement c'est rentable aujourd'hui Oui, ça dépend, j'imagine, des dates, mais c'est pas forcément non plus une règle fixe. Quoi. C'est l'objectif, mais qui n'est pas toujours atteint.
Alors... En fait, de manière générale, je parle du global hein, d'abord. De manière générale, faire un concert, c'est pas rentable en France, du coup, et en Europe.
Parce qu'il y a des coûts de déplacement importants qui déjà se greffent au budget global, j'imagine.
Alors, c'est pas forcément les coûts de déplacement. D'accord. C'est en fait, c'est lié au coût. Enfin, pour la France, en fait, c'est lié au coût
de
production ici qui sont très élevés. Et après, y a toutes les taxes et ce genre de choses qui sont très pénibles pour tout le monde. Donc voilà, donc en fait, on va dire que c'est difficile de rentabiliser un concert. Donc de manière générale. Hein. Par contre, pour les artistes japonais, c'est quand même plus facile de rentabiliser. Que pour un artiste français, même si l'artiste japonais vient de plus loin.
Alors il faut que tu développes un peu parce que là ça.
Pourquoi? Parce que sur les artistes asiatiques, donc on le sait, hein, généralement les billets sont beaucoup plus chers et du coup les gens peuvent payer, veulent payer, ça je ne sais pas, mais en tout cas ils sont enclins à payer un prix fort pour voir des groupes. Qui vont venir une fois et qui du coup ils savent pas s'ils vont revenir en fait. Donc en fait voilà, je pense que c'est un peu
la rareté en fait.
Un peu la rareté qui fait que. Mais après par contre pour les artistes asiatiques, il y a l'Amérique du Sud, donc des entreprises en fait qui font exactement le même métier que moi, avec des artistes asiatiques. Par contre, eux gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Parce que je pense qu'ils sont peut-être... je pense que c'est des histoires de taxes, toujours. C'est aussi, pareil, des histoires de prix de salle, de beaucoup de choses, en fait. Il y a des coûts qui ici, en fait, sont très importants. Et moi, d'ailleurs, toutes les prods étrangères, parce que je travaille pas qu'avec des prods asiatiques, hein, je travaille aussi avec des prods américaines, des fois. Et moi, à chaque fois que je leur donne les prix des salles, et en fait, franchement, les gens hallucinent. Hein. Ils me disent, mais comment vous faites? Je leur dis, je sais pas. et c'est le coût humain aussi qui est très cher. En fait, moi, on m'a dit, pour des Américains ou des Chinois, combien ils payaient des mecs par date. Moi, j'ai halluciné, je vais pas le dire. Parce que après, ouais. Mais franchement, comparé à nous, nous, en fait, on paye des gens plus du double de ce qu'eux payent, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et les mecs travaillent plus que des Français, quoi. Enfin, du coup, c'est...
D'accord. Donc,
du coup, c'est plus intéressant, parfois, pour les prods étrangères, de faire venir tous leurs techniciens,
ah oui.
En fait, en avion, et tout, ouais. pour les faire travailler ici, plutôt que d'engager des gens...
Des gens sur place, ah oui.
Du coup, Donc du coup, c'est difficile. Mais on arrive quand même à faire plus facilement, je trouve, de profit avec des artistes japonais qu'avec des artistes français, par exemple.
Est-ce que justement l'existence de quelque chose qui est un petit peu se développe aussi pas mal, c'est l'existence de billetterie VIP, ce genre de choses, ça aide aussi du coup
Oui, alors il y a ça qui aide. Alors pour les artistes japonais, de toute façon, tous les revenus annexes, c'est ce qui permet effectivement de gagner de l'argent. Donc en fait, généralement, toute la billetterie de concert classique sert juste à rentabiliser le concert. Et après, en fait, pour gagner de l'argent, il y a la billetterie spéciale, donc les meet and greet, et puis il y a tout le merchandising. Parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus de promoteurs ont compris que du coup, c'est important aussi. Donc voilà. Mais par exemple, je souligne quand même que en fait, dans les groupes, on va dire, normaux, il y a aussi un revenu qui normalement est pris en compte, mais qui, pour les artistes japonais, n'est jamais pris en compte, c'est les recettes du bar.
Ah. Voilà.
Donc, par exemple,
pourtant, il y a des gens qui sont là après à donner de...
C'est vrai.
Hein, d'eux-mêmes pour être au bar et... pour aider.
Tu t'enfonces toute seule. Hein,
pour aider les artistes.
Bien
oui,
sûr.
C'est ça. Ouais.
C'est bien.
Ouais. Une petite bière pour les artistes.
D'accord. Et oui, donc du coup, ça, effectivement, donc ça peut générer des problèmes parce que selon effectivement les recettes supposées du bar sur une date.
En fait, c'est juste que c'est vraiment selon le. Enfin, aujourd'hui, pour tout l'industrie de la musique, puisque maintenant voilà, tout le monde, tous les promoteurs français ont travaillé déjà avec des groupes japonais ou avec des groupes asiatiques. Donc en fait, maintenant ils savent. Donc déjà, à partir du moment où il y a un groupe asiatique qui vient. C'est pas la peine de compter sur le bar, il faut prendre le merch, il faut prendre de l'argent sur les meet and greet. Donc en fait maintenant toutes les salles le savent, hein, tout ça. Hein. Et en fait ils font même maintenant, surtout la Cigale, les salles où il y a souvent des concerts maintenant, prennent même de l'argent du coup sur les billets VIP, alors qu'avant ils le faisaient pas. C'était à part en fait. Et voilà, donc... Donc voilà, chaque type d'artiste maintenant a une typologie.
Et en même temps, bon, c'est vrai qu'au Japon aussi, il y a ce côté... j'ai fait un petit concert là quand j'y étais, la conso gratuite obligatoire. Voilà,
ça, maintenant.
C'est la conso obligatoire.
Ouais. Peut-être faire ça. Hein.
C'est ça, en fait, je
pense que les lois françaises l'interdisent parce que c'est de la vente forcée.
Ouais, mais c'est pas possible. Hein,
voilà,
en plus.
Mais c'est vrai qu'au Japon,
c'est
du
pas
coup,
le même type de.
500 yens, ta boisson gratuite obligatoire, effectivement. Enfin, ils te disent, elle est compris, mais en fait, non. Et puis tu vas quand même la prendre dehors avant que tu aies eu le temps de.
Non, mais c'est vrai que c'est une approche aussi qui est différente, quoi. On va conclure sur un petit peu l'avenir. Donc tu l'as dit tout à l'heure, de ton point de vue, la J-Music a quand même un avenir encore en France et en Europe, donc ça me rassure un peu, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu triste, quoi.
Oui, moi je pense que il y a un avenir. Après, c'est surtout, comme je disais, le fait pour les artistes et pour les managements, parce que bon, c'est pas que c'est les managements qui décident, mais d'être un peu plus proche en fait de ce qui se fait en termes de promotion, en termes de online, en termes de tout. Et par exemple, pour la dernière artiste japonaise là que moi j'ai fait, c'est Kokia. Et en fait, ce qui est bien avec Kokia, c'est qu'on parle directement avec elle. Donc il n'y a pas de management, en fait, le management c'est elle. Et du coup, par exemple, on lui a dit, il faudrait te créer un compte Instagram. Elle savait pas ce que c'était, elle. Donc du coup, et pour le coup, elle a découvert. Et en fait, elle poste maintenant des photos, je ne sais pas si vous avez vu, elle poste des photos de son chien ou des photos de quand elle part en promenade. Bientôt, elle va peut-être faire des stories.
Hein, ouais,
c'est ça qui est bien, en fait. C'est les artistes, ils doivent un peu se rendre compte qu'il faut utiliser aussi ces réseaux-là qui sont importants pour leur développement. C'est pour ça que je pense que l'évolution, positive, en fait. Mais c'est aussi au groupe, au management, aux sociétés japonaises de changer, quoi. En fait, c'est pas le marché, en fait. Le marché, lui, il prend ce qu'on lui donne. Ça dépend, mais bon, généralement, il y a toujours... je dis, il y a toujours un public pour tout, hein, de toute façon. Donc tu trouves toujours un public. Il suffit juste que les artistes regardent un peu. Quoi.
Et alors du coup, effectivement, tu travailles aussi pas mal avec la Corée. Est-ce que, à ton avis, justement, le Japon doit s'inspirer des méthodes coréennes pour développer son business à l'international?
Alors, en fait, il n'y a pas de méthode coréenne. Hein. La méthode coréenne, c'est juste, au lieu de faire de la promotion offline, je vais faire que du online. Bah voilà, c'est tout quoi, en fait, c'est juste ça. Donc en fait, ils ont fait que ça. Et c'est vrai que, au final, c'est ce que les Japonais auraient dû faire. Ils devraient faire, parce qu'ils peuvent encore le faire.
Oui, c'est ça, mais ils le font pas.
Mais ils le font pas, ils sont encore trop dans le traditionnel, trop dans... il faut faire des flyers, des machins, mais des flyers, quoi. C'est pour les groupes de métal, ça, c'est pas pour les groupes... Pour moi aujourd'hui, si t'es pas présent sur l'online, c'est quand même très difficile hein, de te faire connaître.
D'accord. Ok. Tu nous dis un peu, tu as des choses en préparation quand même qui arrivent niveau live, niveau concert
Alors en fait en ce moment je travaille plutôt sur tenter de faire des collaborations entre des artistes français et des artistes japonais, mais des vraies collaborations, hein, pas des featuring donc comme on parlait tout à l'heure. J'essaie de faire collaborer vraiment sur des morceaux sur un concept de spectacle en fait des artistes pour qu'après il y ait une vraie logique globale en fait sur un spectacle quoi ou un album ou un titre. Donc je pense que d'ailleurs c'est ça en fait qu'il faut maintenant viser hein. Et de plus en plus je pense que les artistes visent ça, le fait de collaborer le plus possible.
Puis ça aide forcément du coup à la promo dans les deux pays, in fine.
C'est ça. Et en fait, c'est un peu l'objectif. L'objectif, c'est que pour moi, il y a les marchés, de territoire. Et après, il y a le marché du web, quoi. Et le marché du web, c'est international, en fait. Donc, même si on peut cibler après, ça reste quand même international. Et effectivement, on parlait tout à l'heure des artistes coréens, mais les artistes coréens, c'est ça. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font des concerts partout dans le monde? C'est parce qu'en fait... ils ont capté tout Internet, en fait. Mais c'est ça qui est impressionnant, hein, d'ailleurs.
Non, mais c'est vrai. Ok. Écoute, merci beaucoup, Xavier, pour tous ces éléments. C'était vachement intéressant.
Mais je t'en prie.
Et on poursuit avec la suite des Focus.
Focus.
La suite des Focus avec toi, Tanja, on va parler d'un groupe qui s'appelle Polkadot Stingray.
Voilà, que on va raccourcir en Poluka, hein, comme au Japon, parce que c'est un peu long à dire et c'est difficile pour moi. Mm-hmm. Donc c'est un groupe que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec l'ending de Radiant. Non, Santé.
Radiant.
qui donc c'est le même titre d'ailleurs, c'est un titre éponyme hein, qui est très très bien, mais c'est pas celui-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin, je vais vous présenter un nouveau titre qui s'appelle Denko Seka. C'est un single qui est tiré de leur nouvel album. C'est le deuxième qu'ils ont sorti là cette année, en début d'année. Il est plutôt sympa. Donc je vais d'abord vous faire écouter le titre et après je repars du groupe. この島でさ友達と無理の君に鬼会えた姉さんを知らないなんて残念だお祈り申し上げる君に恋してる Donc, je reviens sur le groupe qui est originaire de Fukuoka, qui s'est formé en 2005 et qui compte donc une chanteuse, comme vous avez pu l'entendre. Et les autres, ce sont des jeunes hommes, ils sont quatre. Ils sont passés majors en 2017 chez Universal. Et moi, je les aime bien. Ils sont plutôt sympathiques. C'est pas du tout ce que j'écoute d'habitude, mais c'est pas grave. C'est rare que j'aime les filles quand elles chantent au Japon, parce qu'elles sont souvent des voix hyper aiguës, et moi ça je supporte pas. Hein. Rigolez pas tout ce truc.
Il y en a, c'est vrai.
Oui, moi les garçons avec des voix aiguës, ça m'embête pas, mais les filles, oui.
D'accord. Faut
chercher à comprendre. Donc, leur nouvel album qui s'appelle Ushoten, qui est sorti en début d'année, on peut l'écouter sur Spotify et sur iTunes, si vous l'avez. C'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Et tous leurs clips sont disponibles sur YouTube, ça aussi c'est plutôt pratique, comme on parlait tout à l'heure des groupes qui veulent quand même un tout petit peu se faire de la promotion. Et donc voilà, c'est le titre que vous avez entendu, il est vraiment assez représentatif, c'est tout joyeux, c'est pop rock, c'est sympa, ça coule tout seul. Et voilà.
Le clip est très sympa d'ailleurs.
Le clip est très sympa, ouais. En plus il est rigolo, on peut faire la chorégraphie avec eux, c'est super. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que vous allez écouter d'autres titres d'eux, parce qu'ils ont, ils ont de l'avenir.
Très bien, bah, écoute, Julia, tu l'as bien vendu.
Oui.
Siro, on passe à toi, et alors avec un boys band.
enfin, tout de suite les grands mots.
Non,
on peut dire ça.
Qui s'appelle Panda Dragon.
Voilà, j'ai fait le grand écart avec mon focus tout à l'heure, là ça n'a rien à voir, c'est un petit groupe, pas très connu, ils ont débuté il y a un an à peine. Donc c'est des petites idoles masculines, effectivement, qui s'appellent Panda Dragon. Moi je les connais à peu près depuis leur début, mais je savais même pas qu'ils venaient de débuter, donc comme quoi c'est assez fou. En fait, pour savoir comment je les ai connus, on remonte à Japan Expo l'année dernière, 2018, où il y avait les Mais c'est moi qui étaient invités, qui est aussi un groupe d'idoles masculines. Et avec Caroline Cigara, hein, qu'on embrasse au passage, on les a vus en showcase et on a trouvé ça très sympa. Et du coup je me suis un petit peu intéressée à leur univers. Alors Mais c'est moi, l'autre groupe donc, à la base, ils faisaient des dance covers des Morning Musume, quand même. Donc c'est très, très spécifique, hein, c'est spécifique. C'était pas vraiment un groupe, juste ils faisaient dance covers sur Nico Nico, au Japon. Et en fait, après, ils se sont réunis et ils ont dit, tiens, on va lancer. Il y a un des membres qui a été blessé, donc il est parti et qui a lancé du management, en fait. Et il s'est dit, on va lancer ce groupe en tant que groupe d'idol à part entière. Ils vont s'appeler les Mais c'est moi. Et lui, il a lancé un truc qui s'appelle Didi Corporation. Et qui veut dire d'arrêt des mots Dream Corporation. Donc tout le monde peut rêver. Voilà. C'est beau. Hein. Et du coup, dans ce label, donc, Mais c'est moi, c'est les plus connus, donc ceux qui sont venus l'année dernière. Il y a aussi Chocolate Bomb, Cosmic et Panda Dragon, les petits derniers. Donc, rien que le nom, moi j'aime bien, hein, les Panda Dragon. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Des animaux comme ça, bon. Bon alors par contre, ils viennent de débuter, ils ont qu'une chanson pour l'instant. Enfin, ils n'ont pas qu'une chanson parce qu'ils viennent sortir aussi un album. On n'a pas réussi à trouver avec Caroline au Japon. Alors, je sais pas où ils le vendent, mais alors c'est encore un petit peu obscur. Et on écoute d'abord la chanson, puis après je reviendrai dessus, qui s'appelle Koishite Baila. Voilà, c'était Panda Dragon avec Koishite Baila, une chanson avec des mots espagnols, hein, pour faire toujours tube de l'été. Enfin, c'est très, très classique idol, hein, j'ai envie de dire. Que ce soit chez les hommes ou les femmes. Et du coup, voilà, donc ils sont sept, chacun a une couleur. Enfin, c'est vraiment classique idol. Ils sont assez jeunes, mais ils disent pas vraiment leur âge. Je sais que le plus jeune, il a 14 ans quand même. Donc, c'est petit, c'est très bébé, ouais.
Oh, c'est
pour ça, moi, je les soutiens parce que je me dis, ils ont de l'avenir quand même. Parce qu'il fait... Et du coup, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, eux, comme on en parlait tout à l'heure. Par contre, ils ont tout compris. Ils ont chacun un Instagram, un Twitter. Ils posent des trucs.
C'est bien.
On est méchants avec eux.
Il y a tout là. Alors là, c'est la totale, par contre. Et chacun poste. Bah, en plus, ils font des chorégraphies. Enfin, ils font aussi des dance covers de groupes féminins. Donc c'est particulier, mais c'est sympa. Et du coup voilà, moi j'ai commencé à les suivre un peu comme ça sur Instagram, fil en aiguille. Je me suis dit, mais c'est qui ces groupes, qu'est-ce qu'ils font? Je suis allée au Japon voir en concert, figurez-vous. Mais c'était très rentable parce que c'était pas cher et il y avait 4 groupes. Et c'était à midi par contre, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est genre...
C'est pour ça que c'était pas cher en même temps.
C'est des enfants. Et alors le public, c'est que des filles, 15-16 ans, ultra maquillées et tout, parce qu'il y a séance photo évidemment.
Ah bah oui.
payante, mais il y a
tu as pris une photo.
Non, moi j'ai pas fait parce que faut pas déconner quand même. Moi j'étais là pour voir la musique, tu vois, pas.
Oui, oui.
Mais non, c'est vrai. Non, après il y a des séances photos donc payantes. Et donc toutes les filles, elles sont habillées, genre c'est le jour de leur vie, quoi. On sent que c'était très important, ça piaillait dans tous les sens, c'était très sympa. Et donc voilà, quatre groupes en live. Il y a aussi les Didid Babies, qui sont les stagiaires, je ne sais pas trop comment, les trainees. Les
tout, ouais,
alors ils sont encore plus petits, moi j'étais là, mais ils ont 10 ans, qu'est-ce que c'est ça. Il y a un peu tous les âges. Et voilà, et donc on peut les suivre sur tous les réseaux sociaux, donc ça c'est cool. Et le dernier groupe que j'avais pas supporté, on dit comment en français, pas supporté. J'avais suivi, enfin j'avais encouragé à soutenir à fond, voilà. C'était le Shinsengumi Rien, qui comme son nom l'indique, n'a pas fait une grande carrière.
Celui-là, elle a préparé.
Ils étaient en 2009 jusqu'en 2014, ils sont séparés depuis. Mais là, j'espère que Panda Dragon, je suis à fond derrière. Xavier, si tu veux les faire venir en concert, je serai seule dans la salle. Mais, mais voilà.
Je sais pas si ça va être très rentable alors.
Non, dommage. Bon.
Bah, alors dans son salon, tu vois.
Ah, dans son salon, ouais.
Mais voilà, comme il y a plein de groupes dans cette corporation, la Didi Corporation, je me dis que peut-être il y a de l'avenir quand même. Oh, on sait jamais.
C'est intéressant. Hein.
Et en plus, c'est tous des idoles un peu autoproclamés. Chacun a un peu sa personnalité. Ils ont des surnoms qui se sont eux-mêmes choisis. On sait pas trop leur vie ni rien. Et c'est pas mal, je pense que ça peut fonctionner. Ils sont très actifs du coup sur Internet. Donc, bon.
Très bien, merci beaucoup Siro. N'hésite, de toute façon on mettra les liens et puis.
Oui, voilà, oui, les clips. Enfin le clip. Ils ont qu'un an d'âge de groupe, ça va venir.
Faut démarrer. Et on passe à l'agenda.
L'agenda.
Alors, il y a beaucoup de dates à annoncer. Je ne vais pas pouvoir être exhaustif, c'est pas possible, parce que sinon on est parti pour une demi-heure d'agenda. Et je vais essayer d'aller vite, parce que c'est toujours un petit peu austère quand même, hein, l'agenda. On attaque le 26 mai, c'est One Ok Rock à Paris, enfin à Boulogne, à la scène musicale, on en avait déjà parlé la dernière fois. Le 28 mai, il y a le groupe Chai, je ne sais toujours pas.
Chai. C'est un très bon groupe, hein. Moi je les ai vus en concert.
Ok,
faut aller les voir, elle. Hein.
C'est ça. Et
franchement.
C'est au Supersonic à Paris et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Ouais, j'y vais.
Donc,
ouais.
Ah oui.
Mais on y va. Je vais essayer d'y aller pour le vrai.
Ah oui, bah ouais. Allons-y tous.
Voilà.
Tanja.
Allons-y, oui.
Allez, voilà. Du 27 au 30 mai, il y a le Primavera Sound 2019. C'est à Barcelone cette fois-ci. Si vous êtes en Espagne, avec
on y va.
Bah ouais. Aussi, pourquoi pas. Si vous payez le voyage, avec Suyobino Campanella qui sera là.
Ah ouais, très bon groupe aussi.
Du 30 mai au 1er juin, il y a le This Is Not Love Song Festival à Nîmes, toujours avec Suyobino Campanella. Shonen Knife et Chai, donc. En mai et juin, il y a la rappeuse Haru Nemuri qui sera en tournée européenne et qui passe en France notamment à Colmar, à Dijon, à Metz et à Marseille. Toujours
et ben.
Sur... Comment
oui. Et ben.
Voilà, et ben. Toujours sur la même période, il y a le groupe Nani Gulu qui sera en tournée. C'est deux membres d'Acid Mother Sumble.
Oui.
Voilà. Voilà, pareil, si ça vous intéresse, je ne vais pas vous donner toutes les dates, mais ils font quand même pas mal de live, donc jetez un œil si ça vous intéresse. Il y a également Colrain au mois de juin qui sera en tournée européenne, avec notamment une date à Paris le 12 juin aux Étoiles. Le The Gazette aussi en tournée européenne avec une date au Bataclan à Paris le 14 juin et c'est toi Xavier qui me disais que c'était presque sold out il me semble.
Presque complet, oui.
Voilà.
Faut se dépêcher.
C'est ça.
Dépêchez-vous.
On a déjà nos places.
Du 13 au 15 juin, il y a la Magnific Society à Reims. Alors il y a avec comme chaque année un corner japonais. Et donc cette année, petite nouveauté, c'est japonais et coréen. Donc des artistes.
Enfin, japonais et asiatiques, parce que je crois, il y a aussi des artistes chinois, il y en a un, non
c'est possible. Je l'ai pas noté, mais en tous les cas j'y avais été il y a deux ans, c'est un festival très sympa. Je pense pas que je pourrais y aller cette année, mais en tous les cas j'ai regardé un peu leur prog, elle est vraiment intéressante parce
ouais,
que
hyper intéressant.
Voilà, il y a vraiment un peu tous les styles, c'est moi je trouve ça vraiment très chouette, vraiment. Donc n'hésitez pas si vous êtes du côté de Reims. Alors du mois de juin à août, alors là on est sur la méga grosse tournée de Crystal Lake, trois mois, dont deux dates en France, le 20 juin à Paris et le 1er juillet à Toulouse. Au mois de juin, il y a également Bandmade en tournée européenne, dont une
encore
date. Et oui, voilà. Dont le 23 juin à Paris. Alors, juste un petit râlage au passage, parce qu'ils ont appelé leur tournée Domination Tour. Alors, pour moi, Domination, c'est pas Bandmade. C'est un rapport avec un autre groupe, mais voilà. Ouais, donc, je trouve qu'il y a un petit peu spoliation, là. Mais bon, bref, voilà. Je devais à exprimer mon désaccord sur cette terminologie. Du 25 au 28 juin, il y a le festival Paint Your Teeth in Paris, avec...
tout à fait.
Voilà, avec... du coup des artistes assez underground hein, quand même, on
ouais,
va
très
le dire.
Underground ouais
voilà, et notamment
très
le groupe
spé, ouais.
Voilà
mais très intéressant quand même,
et notamment le groupe Salomé no Kichibiru. Pourquoi je vous parle de ce groupe là parce que ce groupe sera également à Japan Expo évidemment du 4 au 7 juillet à Villepinte, ai-je besoin de le préciser, avec également alors on entend encore des annonces, parce que c'est vrai que pour le moment c'est pas folichon en termes de musique hein, on va pas se le cacher. Pour le moment ont été annoncés Aya Hirano, Mika Kobayashi, Idu Grace et Task Have Fun, plus également toute une programmation évidemment côté plutôt tradi, shamisen, voilà. Mais effectivement, pour le moment, ça manquait peut-être un petit peu de gros noms pour nous donner envie de...
Ça va être de la surprise.
Voilà.
On espère que c'est une grosse surprise. Ouais. Mais bon.
Ça aura peut-être Yoshiki.
Voilà. On parle des surprises.
Peut-être. Le 11 juillet, il y a le groupe un peu d'idol underground, Necronomy Idol, je sais pas.
Moi, je sais pas comment on dit non plus.
Voilà. Qui sera à Metz, à la douche froide. Voilà.
C'est bien, ils vont dans les villes un petit peu reculées. Ouais, pas que c'est Paris, bien. C'est chouette.
Ensuite, on saute en août, le 19 août, c'est Crossface qui sera à Paris au Trabendo. Et on termine un petit peu, alors là on a encore un peu de temps, mais c'est le 24 août avec le festival Asian Music Mania qui va se tenir au Bourget. Alors pour le moment on a peu d'infos sur ce qui va vraiment être proposé dans ce festival. Moi de ce que j'ai compris ça va être quand même très axé K-pop, mais peut-être toi Xavier tu as quelques éléments à nous apporter apparemment.
Alors moi je sais pas si je peux beaucoup en parler des éléments, mais ils sont en tout cas, je sais qu'ils sont en recherche d'artistes japonais. Donc nous on a fait des propositions de notre côté après, mais qui n'ont pas été confirmées d'ailleurs. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont avoir en termes d'artistes japonais. Après, ils vont peut-être prendre des artistes qui sont en tournée, qui sont sur la même période.
Voilà, apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont annoncé au moins un concert de K-pop. Tous les cas d'un groupe de K-pop, mais on ne sait pas trop lequel. Pour le moment, ça n'a pas été.
Il y en a plein, à mon avis.
Donc, il faut bien trouver un qui est dans le coin.
C'est ça.
À vous, là, venez. Non, mais effectivement, on attend plus d'infos, quoi.
C'est ça, parce que effectivement, sinon, enfin voilà, si en tous les cas vous y allez pour le côté J-Music, bah, renseignez-vous bien avant de prendre votre billet, parce que peut-être ça ne sera peut-être pas là.
Les billets sont déjà en vente.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que
avant. Ils sont en vente et il y a rien en fait.
Bah,
c'est très étrange,
c'est chaud, là,
comme
c'est
manière de faire.
Ouais, bah, c'est un peu comme Japan Expo en fait.
Oui, mais Japan Expo, c'est Japan Expo.
Japan Expo, voilà. Tu sais qu'il y a des exposants, tu sais quand même que tu vas trouver des choses. Quoi.
Mais dans l'idée, c'est un peu le même principe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'agenda, mais encore une fois, il y a d'autres dates, je ne peux pas tout citer, donc n'hésitez pas à jeter un œil de votre côté pour compléter toutes ces différentes dates. On arrive à la fin de cet épisode 6 du J-Pop Social Club. Les remerciements habituels, Myrtille, Nicolas, François, Tanja, Caroline.
Ah bah je suis là.
Ah tiens. Également Meul, je rappelle que les jingles, c'est le groupe Lewis Lane et la voix de Katie Smith. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui.
Bah merci à toi.
Merci
pour
de nous avoir invités. Hein.
Il y a même des cookies, on est quand même bien reçus.
Voilà. Ouais. On reviendra.
Ouais,
bah,
voilà.
J'espère bien.
On reviendra.
Le prochain numéro, si tout va bien, ce sera au mois de juin. Et a priori, ça devrait être le dernier de la saison. Et ensuite, bah, comme ça, on pourra travailler tranquillement cet été à une potentielle saison 2 du J-Pop Social Club. Pour le moment, voilà. J'y travaille, c'est pas encore confirmé, j'espère qu'on pourra faire quelque chose, mais je vous tiendrai au courant en temps voulu. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut.
Salut.
Salut. Bye bye.
Le J-Pop Social Club.